7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Israelis running for shelter in Tel Aviv and Jerusalem.
Los que sí están llegando ya en masa al Río de Janeiro, al Maracaná.
Thanks so much for that report.
Michaël Thébault, bonsoir.
Et bonsoir Nicolas.
Pour commencer, direction les États-Unis où une fois encore ressurgit le débat, Michaël, sur les armes à feu.
Et cette fois, c'est l'offensive conjointe de deux grands titres de la presse américaine qui relance ce débat, Newsweek et surtout le New York Times. Le New York Times qui a recoupé tous les chiffres de police, les chiffres des hôpitaux, les études médicales fédérales et les enquêtes menées par les cabinets médicaux privés. Résultat ? La troisième cause de mortalité infantile aujourd'hui aux États-Unis est l'usage des armes à feu. En moyenne, tenez-vous bien, chaque semaine, 25 enfants meurent des suites de blessures par armes à feu. Et dans la plupart des cas, il s'agit d'accidents qu'on qualifierait de domestiques. Je vous donne quelques exemples relevés dans la presse américaine, rien que depuis le début du mois de juin. Ainsi, dans la région de Chicago, où une fillette de 9 ans a été tuée par son père d'une balle dans la tête. Papa nettoyait simplement le canon de son magnum. En Caroline du Sud, un enfant de 4 ans a été tué par son frère, âgé de 6. Là encore, accidentellement, il jouait à la guerre avec le fusil de chasse chargé de papa, un fusil quasi mitrailleur. Idem dans le Tennessee pour une petite fille de 7 ans, ou à Austin au Texas, où deux copains de 10 et 11 ans ont fait semblant de se suicider. C'est ce que racontait le troisième. Épargnés, les revolvers étaient malheureusement chargés. Et à tous ces accidents, il faut évidemment ajouter les agressions, les homicides volontaires. Et on atteint alors le chiffre vertigineux de quasiment 2000 morts par an. 2000 Américains de moins de 18 ans tués d'une balle. Ou comme le dit le New York Times, tués par le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis. Deuxième amendement qui garantit pour tout citoyen américain depuis 1791 le droit de porter des armes à feu.
Direction maintenant la Chine, Michaël. La Chine qui tente de se verdir encore un peu plus.
Et Pékin qui, vous le savez, joue à fond la carte de la COP21, surtout bien sûr depuis l'annonce de Donald Trump le 1er juin dernier. Les États-Unis qui quittent l'accord de Paris sur le climat. Formidable occasion pour les autorités chinoises de montrer au reste du monde leur volonté d'agir contre le réchauffement climatique et contre la pollution. Et c'est vrai que dans la plupart des mégalopoles chinoises, des mesures ont déjà été prises, particulièrement dans la capitale, où près de 200 usines considérées comme très polluantes ont été fermées. Idem pour les ancestrales centrales à charbon. La dernière, qui était située en plein centre-ville, a fermé il y a quelques mois. Et désormais, 100% de l'électricité consommée par les 20 millions de Pékinois est produite par des centrales à gaz. Alors qu'en disent aujourd'hui les habitants ? Respirent-ils mieux ? Reportage dans l'Est de Pékin, signé Dominique André.
Madame Tsai, 80 ans, est née dans ce Rutong, nom donné aux ruelles traditionnelles de Pékin. Elle a connu les champs qui, dans les années 90, ont dû laisser place à une énorme centrale. Plus d'1,5 million de tonnes de charbon y étaient brûlées chaque année. Huanang a été la dernière des 4 centrales à charbon à avoir fermé depuis 2013. Elle a été remplacée par une centrale au gaz. Alors bien évidemment, Madame Tsai et son voisin M. Zhang respirent beaucoup mieux.
Ils ont changé le charbon par le gaz. Bien sûr que c'est très bien, non, vous ne trouvez pas ? Avant, il y avait beaucoup de smog et des fumées. Maintenant, il y en a bien moins. Quand j'étais petite, ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Franchement, à l'époque, il n'y avait pas de problème. Et tout ce qu'on sortait de la terre, on pouvait le manger sans s'inquiéter.
Avant, il y avait plein de fumée. Maintenant, il n'y en a plus. Bien sûr que c'est mieux. Au niveau respiratoire, je me sens plus en forme. Évidemment, on est très content.
La centrale à charbon de Huanang a fermé symboliquement au moment où se tenait à Pékin le grand rendez-vous politique de printemps, l'Assemblée nationale populaire, au cours de laquelle le Premier ministre Li Keqiang a promis de rendre un ciel bleu aux Chinois.
Nous rendrons à nouveau le ciel bleu. Cette année, nous verrons que les émissions de dioxyde de soufre et d'oxyde d'azote seront réduites de 3% et que la quantité de particules fines PM2.5 dans les zones clés chutera de façon considérable. Nous allons travailler vite pour résoudre la pollution due à la combustion du charbon. Nous allons prendre des mesures globales pour rendre la combustion plus efficace, pour promouvoir un chauffage propre l'hiver dans le nord-est de la Chine, pour remplacer les centrales à charbon par des centrales à gaz et éteindre les hauts fourneaux dans les villes. Nous allons accélérer les travaux pour améliorer la qualité du charbon et avoir des émissions moins polluantes et stocker l'énergie produite. La modernisation sera achevée cette année dans l'Est, l'année prochaine dans le centre du pays et en 2020 dans les régions de l'Ouest.
La fermeture de Roanoke s'inscrit dans un programme environnemental prioritaire pour le régime chinois qui fait face à une pollution catastrophique de l'air, de l'eau et des sols. Plus gros pollueur de la planète, la Chine est devenue aussi le premier investisseur dans les énergies renouvelables, avec plus de 100 milliards de dollars l'an dernier, analyse Vicky Pollard, première conseillère environnement auprès de la délégation de l'Union européenne à Pékin.
Le charbon reste une source d'énergie importante pour la Chine, mais le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour réduire la surcapacité dans le secteur charbonnier. C'est une restructuration du secteur énergétique, mais aussi du secteur industriel, sidérurgie, cimenterie et autres, qui implique beaucoup de changements sociaux, mais sur lequel le gouvernement central est très engagé pour des questions économiques, pour des questions de pollution de l'air et de l'environnement en Chine, mais aussi pour des questions de changement climatique.
L'éolien, l'hydraulique, le solaire et le nucléaire, considérés comme une énergie propre par les Chinois, pourraient fournir 15% de la consommation d'énergie totale d'ici 2020. Les choses s'améliorent lentement, mais la transition a parfois du mal à pénétrer tous les esprits, notamment ceux des industries lourdes, regrette Tian Ting, militante environnementale.
Si les mesures annoncées étaient efficaces, on ne connaîtrait pas des épisodes de pollution aussi longs. Le ministère de protection de l'environnement a envoyé des équipes dans les provinces et dans les villes. Quand les équipes de surveillants arrivent, les usines s'arrêtent de produire. Mais une fois les équipes reparties, les usines se remettent à fonctionner. La priorité des provinces, c'est d'abord la croissance économique.
Pékin ne veut plus connaître le nuage de charbon qui a stagné sur la ville pendant l'hiver 2015. Une image terrifiante, les Pékinois sont restés enfermés pendant plusieurs jours chez eux. On avait alors parlé d'apocalypse.
Reportage à Pékin signé Dominique André. Et pour finir, Nicolas, après la Chine, je vous emmène ici.
Brésil.
Bon, facile, oui. Rio, évidemment, sur ses rythmes de samba qui enflamment chaque année le carnaval, sauf que l'édition 2018 risque d'être beaucoup moins flamboyante, puisque la Ligue des écoles de samba de Rio a décidé d'annuler tous ses défilés l'an prochain. Explication, le maire, Marcelo Crivella, veut réduire de moitié les subventions aux écoles, de 24 à 12 millions de réals, soit environ 3,5 millions de dollars. Des institutions de la samba, déjà mises à mal cette année, coupes budgétaires et mode débrouille pour confectionner les costumes, préparer les défilés. L'argent économisé financerait des crèches, a expliqué le maire. Mais les positions ultra-conservatrices de cet ancien pasteurs évangéliques sont de plus en plus critiqués, et surtout quand on sait que le carnaval attire toujours des centaines de milliers de touristes à Rio, injectant dans l'économie locale près d'1 milliard de dollars chaque année.